1 Corinthiens, donc chapitre 13, verset 13, c'est le dernier verset, où Paul écrit ceci: « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. » Je relis: « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. » Alors je rappelle, 1 Corinthiens 13, c'est un chapitre qui nous parle de l'amour de Dieu, un chapitre qui est souvent utilisé dans les cérémonies, justement, que ce soit mariage ou lors des enterrements. Mais il est parlé aussi d'autres sujets dans ce chapitre, notamment de l'utilisation que l'on peut faire des dons, sachant que les Corinthiens s'évaluaient entre eux et se jaugeaient devant Dieu en fonction des dons. Et c'est comme si dans ce chapitre, Paul est en train de dire « oubliez tout ça ». Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que les dons sont donnés par Dieu. Donc c'est les dons, ce sont des choses de valeur que l'on doit respecter, honorer, mettre en pratique. Mais si on devait comparer ce qui est important au moins important, Paul est en train de dire « oubliez les œuvres, oubliez ce que vous faites, oubliez les dons que vous avez reçus, arrêtez les comparaisons, parce qu'il y a des choses plus importantes ». Et c'est ce qu'il dit donc en conclusion du chapitre 13, « Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ». Donc ça nous montre bien que notre vie chrétienne est liée bien souvent à ces trois mots. Et ces trois mots vont engendrer ensuite des œuvres, des décisions, des attitudes, etc. Et donc il y a trois mots que sont « foi »,« espérance » et « amour ». Et nous allons voir ensemble de quoi ils retournent et comment nous devons assimiler ces vérités afin de vivre une forme de maturité chrétienne au jour le jour. Alors la Bible nous donne des définitions sur tout, en réalité, en tout cas sur beaucoup de choses, et notamment sur ces mots. Et on va voir dans un premier temps ce qu'est la foi. Paul en parle, d'autres apôtres aussi, je pense notamment à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi ainsi, donc c'est dans un chapitre aussi très connu des Écritures qui nous parle des héros de la foi. Il est dit au verset 1 « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors là, on a encore une fois les deux termes qui sont mentionnés. Il est parlé de la foi, mais il est parlé de l'espérance aussi, en tout cas du verbe « espérer ». Et il est dit là que la foi s'exprime par l'assurance des choses qu'on espère, sous-entendu, on espère des choses qui sont devant nous. On espère des choses que l'on ne voit pas. Les deux sphères de l'existence qu'on ne maîtrise pas, c'est l'avenir et le présent qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que même si je suis vivant aujourd'hui et que j'utilise tous mes sens ne suffisent pas pour voir tout ce qui se passe, pour savoir tout ce qui se dit, ce qui se sait, ce qui se pense. Et donc, s'agissant des pensées de Dieu, j'espère que les pensées de Dieu sont favorables à mon égard, par exemple. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi, mais j'espère que ce sont de belles choses que vous pensez. Et s'agissant de l'avenir, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais j'ai besoin d'espérer en demain. Et on va voir plus tard que justement il y a différentes formes d'espérance. Toujours est-il que la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire que la foi va s'exprimer par l'espérance. Et c'est pour ça que Paul utilise ces trois mots, la foi, l'espérance et l'amour, parce que d'une certaine manière, on aurait tendance à penser que avoir la foi et espérer, c'est la même chose. Mais on voit là que Paul fait une distinction. Il dit il y a la foi et il y a l'espérance. Et donc il est important pour nous de comprendre en quoi ces deux pensées, ces deux mots diffèrent. Et donc la foi, qu'est-ce que c'est? Nous le savons au travers de Romains chapitre 10, verset 17. Moi, j'ai tendance à utiliser la version seconde. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'aimerais vous lire ce verset dans la Bible en français courant, qui est une version avec un langage plus simple, mais qui nous permet d'être rafraîchis un peu dans nos pensées, d'être moins familiers avec cette pensée de Dieu. En Romains chapitre 10, verset 17, dans la Bible en français courant, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée, et cette nouvelle, est l'annonce de la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée, donc la nouvelle prêchée, la nouvelle écrite, la nouvelle lue, la nouvelle communiquée. Et quelle est cette nouvelle? C'est l'annonce de la parole de Christ. C'est pour ça que nous annonçons une bonne nouvelle, parce que nous annonçons la parole de Christ, la pensée de Christ, la volonté de Christ, l'œuvre de Christ, les émotions, les sentiments de Christ à notre égard. Donc la foi vient de ce qu'on écoute la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a, que l'on soit conscient ou pas, alors évidemment, il faut espérer que ça ne soit pas fait de façon légaliste, mais pourquoi il est demandé aux chrétiens d'écouter la parole de Dieu, de se réunir, de lire leur Bible, de venir à des rencontres? Parce que la foi, elle ne vient pas toute seule. La foi vient de ce que l'on écoute. Si on n'écoute pas, il n'y a pas la foi. On peut utiliser d'autres synonymes. S'il n'y a pas d'information concernant le royaume de Dieu, il n'y a pas la foi dans le royaume de Dieu. Donc, nous avons besoin de la foi, et donc de la parole de Dieu. Et là, il y a une déduction qui doit être faite, qui est très importante et qui nous permettra ensuite de comprendre la différence qu'il y a entre la foi et l'espérance. La foi, elle est reçue. La foi, elle est reçue, elle n'est pas créée. C'est pour ça que quand les gens, alors je peux comprendre, hein, quand on discute avec les gens disent « Ah ben moi, j'ai pas la foi ». On pourrait leur dire « Mais tu n'as pas la foi parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu ». Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. J'ai l'habitude de dire hein, que la foi, en réalité, le mot tel qu'en lui-même et le concept et l'idée et le mode de vie qui en résulte, nous l'avons tous, la foi. Vous êtes là cet après-midi parce que vous saviez qu'à 16h, il y avait une rencontre. Vous n'aviez aucune preuve que cette rencontre ait lieu, mais vous avez cru qu'elle allait avoir lieu. Vous avez eu confiance. Confiance dans la technologie, confiance dans le logiciel, confiance dans le fait que vous serez à l'heure, confiance dans le fait que les autres seraient à l'heure. Donc vous avez placé votre confiance envers des gens, envers une technologie, envers des choses matérielles. Donc tout le monde vit avec la foi. Mais la foi en Dieu, c'est pas une foi innée comme ça. La conscience, elle, est innée. La conscience de Dieu, la conscience de l'éternité, nous l'avons tous. Mais une fois que nous avons cette conscience de Dieu, la conscience de l'éternité, la conscience du bien et du mal, une fois que nous avons ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va trouver la vérité et que nous allons vivre la vérité. Nous avons besoin de recevoir. Donc la foi se reçoit. Alors ça demande la souveraineté de Dieu et l'action de Dieu et donc l'action du corps de Christ pour que nous puissions recevoir cette parole. Des personnes nous évangélisent, une Bible familiale est sur notre étagère et on l'ouvre, on s'interroge sur la vérité, la Bible ou sur les religions et on fait des recherches, on lit des livres. Donc il y a une démarche évidemment que nous devons avoir et en même temps des rencontres qui sont faites pour que nous soyons en contact avec la vérité, en contact avec la parole de Christ. Mais si ce contact n'avait pas eu lieu dans notre vie, nous ne pourrions pas avoir la foi telle que Dieu l'a définie, c'est-à-dire la foi qui vient de la parole de Christ. Donc la foi, c'est accepter quelque chose que l'on reçoit. C'est pour ça qu'on peut dire que la foi nous est donnée par Dieu. Parce que s'il n'y avait pas eu la parole de Dieu, nous ne pourrions pas avoir la foi. Nous ne pourrions pas avoir des promesses, nous ne pourrions pas avoir des certitudes sur, par exemple, comment pouvons-nous savoir que Dieu est trinitaire. S'il n'y avait pas eu de révélation scripturaire, ça ne se devine pas le fait que Dieu est trinitaire. C'est impossible. Nous qui n'étions pas en présence de Christ, et je dirais même les apôtres ou les disciples ou même les opposants de Christ, même à l'époque, ne pouvaient pas deviner que Jésus-Christ était Dieu incarné. Ils voyaient bien qu'il y avait des miracles. Certains savaient que cette naissance, je pense aux parents, à ses parents, étaient conscients que c'était une naissance miraculeuse. Néanmoins, ça ne faisait pas forcément, c'était pas forcément évident que Jésus soit le Fils de Dieu. Il fallait qu'il y ait une révélation. Et c'est cette révélation qu'il a fallu croire ensuite. Donc la foi a été offerte par Dieu. C'est parce que Dieu offre des informations. Il se révèle. Il se fait découvrir, il se laisse trouver. Et pour ceux qui ont vraiment cette recherche de la vérité, qui ont l'humilité de recevoir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, ils se saisissent des promesses de Dieu, et c'est ce qu'on appelle la foi. Nous croyons, par exemple, que pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Des milliards d'êtres humains croient en autre chose, mais nous, nous croyons parce que nous avons reçu la foi, nous avons reçu la doctrine, nous avons reçu la parole de Dieu. Donc, la foi accepte ce que Dieu dit. Et dans ce que Dieu dit, ben, il y a des choses concernant le passé, par exemple. Nous croyons que les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées parce que Dieu les a révélées dans les Écritures, mais nous croyons aussi dans les promesses liées à l'avenir. Et c'est là où nous arrivons maintenant à l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance s'attend à quelque chose. La foi, je dirais d'une certaine manière, ne s'attend plus à quelque chose parce qu'elle a reçu déjà tout ce qu'il fallait. Alors, je mets un bémol en disant ça, c'est qu'évidemment, on n'a pas tout reçu puisqu'il nous faut une vie entière et plus même pour découvrir les Écritures et les comprendre. Donc, dans ce sens, on n'a pas tout reçu. Mais si vous voulez, la doctrine, la parole de Dieu et la bonne parole de Christ, elle est déjà là. Il nous faut simplement la sonder de plus en plus, découvrir certaines facettes des Écritures qu'on n'avait pas appréhendées auparavant. Mais néanmoins, elle est là, la foi, la doctrine est là, la parole est là. En revanche, il y a des choses qui ne sont pas encore là. Et l'espérance, c'est croire dans ce que la révélation de Dieu nous a communiqué, et donc nous avons une attente pour l'avenir. Donc la foi est l'appui de notre existence, et l'espérance s'attend aux réalisations des promesses. Donc prenons un exemple. Lorsque Jésus dit, par exemple en Jean 3, verset 15, vous savez, Jean 3, 16, l'homme, Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc au verset 15, afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Donc ça, c'est une information qui m'est communiquée, c'est la parole de Christ. Et donc la foi a été développée en moi et je crois que Jésus-Christ veut nous donner la vie éternelle. Alors il nous l'a donnée lors de la régénération, mais l'espérance, elle s'attend, par exemple, à ce qu'on ait un corps glorifié, que nous n'avons pas encore. Donc la foi croit que nous aurons un corps de résurrection, mais l'espérance s'attend à expérimenter un jour ces promesses-là. Donc il faut qu'il y ait la foi, et donc la révélation de la parole de Dieu, pour qu'on puisse espérer. Parce que sinon, notre espérance, elle peut être vaine, elle peut être complètement fausse. Par exemple, quand on discute avec certaines personnes, celles-ci vont vous dire « oui, je crois en Dieu », et vous leur dites « mais est-ce que vous croyez ensuite à une vie après la mort ?» Oui, ils y croient. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous arriver ? Les gens vont dire, bah, j'ai pas trop fait de mal, donc Dieu va m'accepter. Ou d'autres vont dire, j'espère qu'il va m'accepter. Donc ils utilisent le verbe espérer. Mais c'est une espérance qui n'a rien à voir avec la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas reçu la révélation de la parole de Dieu. Et donc leur espérance s'appuie sur ce que eux croient, sur leur manière de penser Dieu, leur manière de penser la religion, leur manière d'imaginer l'avenir. Donc ils ont leur croyance, mais qui n'est pas la révélation de la parole de Christ. Donc la foi biblique n'existe pas en réalité, elle est creuse, elle est vide. Et à partir de là, de ce concept culturel ou religieux, peu importe, personnel, à partir de ça, ils s'appuient sur ce qu'ils croient pour espérer. Mais cette espérance, nous savons qu'elle est fausse en réalité. Alors ça les aide peut-être à vivre, mais ça ne va pas les aider à vivre pour l'éternité correctement. Pourquoi ? Parce que leur foi ne sera pas solide. Donc nous avons reçu cette parole de Christ, cette promesse, « Je vous donne la vie éternelle », donc pour nous c'est acquis. La foi, elle est acquise. La parole de Dieu, elle est sûre. Dieu ne ment pas. Dieu ne se renie pas. Lorsque Dieu fait des dons, c'est pour l'éternité, il ne se repent pas des dons qu'il fait. Donc on s'appuie là-dessus. Et du coup, on espère, parce qu'il y a des choses qui nous ont été communiquées, qu'on n'expérimente pas encore. Mais on s'attend à pouvoir les expérimenter. Et donc, l'espérance s'attend à vivre quelque chose un jour, de vivre cette plénitude, si vous voulez, de la foi. Et En Romains 8, par exemple, c'est toujours lié au corps glorifié, quand la doctrine, la foi que nous recevons, il est dit de la part de l'apôtre Paul, versets 18 à 23, en Romains 8, j'estime que les souffrances du temps présent, donc ça c'est quelque chose qu'on expérimente, c'est du solide, on le sait, ça existe. Donc les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc il y a cette certitude qu'une gloire va venir, mais elle n'est pas encore là. Et donc il dit au verset 19 ensuite, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est-à-dire que notre espérance et la nature, là c'est un anthropomorphisme que Paul utilise, elle espère aussi, elle espère dans le fait que les enfants de Dieu et cette nature aussi sera affranchie pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que ça c'est une espérance. Nous ne vivons pas encore la gloire des enfants de Dieu, mais nous avons reçu les promesses. Donc comme nous avons reçu les promesses, nous avons la foi. Et comme nous avons la foi, nous espérons dans l'avenir, à la gloire des enfants de Dieu. Alors que, en même temps, les souffrances du temps présent sont bien là. Mais pourquoi nous allons éviter le désespoir? Parce que la foi va contrer ce que l'on voit. Les promesses de Dieu vont supplanter l'expérience humaine. Et à partir du moment où nous allons placer notre confiance dans la révélation, il va y avoir une espérance malgré le désespoir actuel. Et c'est pour ça que dans les situations que nous traversons, quelles qu'elles soient, que ce soit en ce moment, mais c'était pareil pour le passé, nous vivons des moments difficiles, et comment le chrétien va pouvoir traverser ces moments-là en s'appuyant sur la parole de Dieu qui va lui donner de l'espérance. Il va y avoir la foi, je crois dans les promesses de Dieu, et deuxième partie, du coup j'espère. Et c'est pour ça qu'au verset 22, il continue « Nous savons jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement, et pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc vous voyez, l'attente de la rédemption de notre corps, c'est l'espérance. La promesse de la vie éternelle, c'est la foi, et l'espérance de la gloire à venir dans notre corps nous permet d'espérer dès aujourd'hui. Pour le dire autrement, la foi c'est accepter quelque chose de Dieu, alors que l'espoir c'est s'attendre à ce que Dieu va faire. Je répète, la foi c'est accepter la parole de Dieu, accepter ce qu'il dit, et l'espoir c'est s'attendre à. Je vais prendre un autre exemple, parlons des cadeaux de Noël. Si quelqu'un, je demande à quelqu'un, mes enfants, un proche, qu'est-ce que tu aimerais avoir à Noël? La personne va me dire, je veux telle chose. Je vais lui promettre, je vais lui dire, d'accord, je t'offrirai ce cadeau. La personne a besoin de me croire. Et si elle me croit, elle va espérer. La foi, en ma parole, c'est-à-dire que la personne croit que je vais lui offrir ce cadeau, va susciter de l'espérance pour le jour de Noël qui va arriver. Et c'est pareil dans notre vie chrétienne. Tout comme l'enfant n'a pas encore le cadeau, mais il est déjà dans la joie, alors peut-être qu'il faut qu'il travaille à l'école, il n'a peut-être pas des très bonnes notes, peut-être qu'il a un souci avec un copain, il s'est battu ou il s'est disputé. La vie n'est pas forcément très belle, mais ce qu'il expérimente ne va pas annuler la promesse. Et donc, comme il continue de croire dans la promesse, il y a une espérance qui est vécue au milieu des tribulations, au milieu des difficultés. Mais si je ne reçois pas les promesses, et si je n'y crois pas, je ne peux pas avoir une bonne espérance. Soit je n'ai pas les promesses, et du coup mon espérance est vaine, même si émotionnellement ça me réjouit. Par exemple, un enfant peut dire « Ah, je suis sûr que mes parents vont m'offrir ce cadeau », alors que les parents n'ont peut-être rien promis. Donc là, c'est une espérance qui est fausse. Ou alors, l'enfant va dire « Oui, mes parents m'ont promis ça, mais je ne les crois pas. » Du coup, il n'a pas d'espérance non plus, alors que la promesse a été faite, et elle a été sincère. Non, il faut toute la chaîne. il faut quelqu'un, et alors ce quelqu'un c'est Dieu qui lui ne ment pas, ne se repent pas, et voilà, il est capable d'accomplir ce qu'il promet, alors que les êtres humains des fois ne font des promesses mais ne les tiennent pas. Mais là, en s'agissant de Dieu, nous croyons que la parole de Dieu est parfaite, que les promesses de Christ c'est oui, amen, et donc par la foi nous nous humilions et nous acceptons de saisir les pensées de Dieu à la place de nos propres pensées. Et à partir de là, il y a une espérance qui est suscitée en nous, malgré les difficultés. Et c'est comme ça qu'on doit vivre en permanence, si vous voulez. C'est d'avoir cette attitude d'accepter la parole de Dieu pour ce qu'elle est, et ça va susciter un espoir, on va s'attendre à quelque chose. En d'autres termes, l'espoir est toujours précédé par la foi, jamais l'inverse. D'accord ? C'est pas l'espérance qui précède la foi, c'est la foi, et quand je utilise le mot foi là, c'est la confiance qu'on a en Dieu et donc en sa parole. La foi précède toujours l'espérance, parce que sinon, cette foi est vaine. La foi, en fait, c'est recevoir un cadeau de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, ça a cette notion de confiance. J'ai confiance dans ce que Dieu dit, et ça suscite de l'espoir. Souvent, on associe l'espérance, uniquement à la foi, alors qu'en fait l'espérance est plutôt dans la réaction que nous avons devant la vérité. C'est ça qui produit l'espérance. Si je suis incrédule, je peux connaître la révélation de Dieu, mais je n'espère pas, parce que je n'y crois pas. C'est pour ça que la connaissance intellectuelle, je dirais, ou l'analyse de la parole de Dieu ne suffisent pas à vivre correctement notre vie, parce que nous avons besoin d'y mélanger notre confiance. Parce que s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas d'espérance. Et ensuite, nous vivons dans un vrai espoir, si vous voulez. En d'autres termes, on ne peut pas croire correctement si on n'a rien reçu, et on ne peut pas espérer correctement si on ne croit pas dans ce que nous avons reçu. Pour vous donner un autre schéma, imaginons deux lignes, une ligne verticale et une ligne horizontale qui est devant nous. La foi, c'est une ligne qui va du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on reçoit de Dieu. C'est ça la foi. Il y a les pensées de Dieu, les pensées éternelles de Dieu. Rappelez-vous dans Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix. Et donc, on s'attend à Dieu, on se remet en question et on regarde en haut. Ça, c'est la foi. Et ensuite, on regarde devant nous. Et devant nous, c'est la ligne horizontale et c'est l'espérance. C'est-à-dire, je sais que il va se passer des choses devant moi parce que j'ai reçu les pensées d'en haut. Donc l'espoir ne doit jamais reposer sur ce que l'on attend nous-mêmes ou ce que l'on croit. Vous savez, je mets de côté les pensées ou les rémas de Dieu, comme on dit en grec, un réma, c'est une pensée précise pour quelqu'un en particulier. Dieu, par le Saint-Esprit, on le voit dans le livre des Actes, peut parler précisément à quelqu'un. Exemple, on voit un homme qui va dans le livre des Actes prévoir qu'il va y avoir une famine dans tout l'Empire romain. C'est quelque chose de précis. Dieu peut le faire, bien entendu. Cet homme n'était pas un apôtre, c'était un prophète, mais ce n'était pas forcément un apôtre. Mais en tous les cas, donc Dieu peut encore aujourd'hui nous parler concernant la vie en général et notre vie en particulier. Mais si je fais abstraction de ça, il y a des gens qui des fois espèrent alors que Dieu n'a pas parlé. Et sous prétexte qu'ils vont prendre exemple sur la vie d'un missionnaire, la vie d'un frère ou d'une sœur, et ils vont, c'est comme s'ils entendaient des voix, si vous voulez, et ils vont faire leur des promesses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de leur propre pensée. Ce qu'ils aimeraient avoir et ce qu'ils aimeraient recevoir de Dieu devient leur espérance. Le problème, c'est que ça mène parfois au désespoir. Je peux pas là, c'est pas le lieu pour parler de certains cas que j'ai connus, mais qui ont amené des drames où les gens étaient persuadés que Dieu leur avait promis quelque chose. Et ça ne voulait pas dire que ça ne pouvait pas arriver, ça ne voulait pas dire que Dieu n'avait pas fait dans la vie d'autres personnes. Le problème, c'est que c'était pas pour eux. Et ils se sont accrochés à une espérance qui ne venait pas de la parole de Christ, où Dieu ne leur avait jamais promis certaines choses. Et ils avaient appliqué certains versets de la Bible en fonction de leur vision qu'ils avaient de leur propre vie. Et ils s'attendaient à Dieu, alors qu'en réalité, ils s'attendaient à eux-mêmes. Et donc ça, c'est un point important. Il nous faut rester concentré sur ce que Dieu dit réellement. Dans sa parole, d'abord, ça s'appelle la révélation générale. Et parfois, il est vrai, on appelle ça « Dieu m'a mis à cœur »,« Dieu m'a montré »,« Dieu m'a parlé ». Je ne sais pas, c'est quelque chose de mystique, d'invisible, Dieu peut le faire. Mais soyez sûr que ça vient de Dieu, sinon vous allez espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. Et ça s'appelle même de la présomption, c'est quelque chose de grave. C'est faire parler Dieu alors que c'est nous qui parlons. L'espérance doit toujours s'appuyer sur ce que Dieu nous communique. Sinon, c'est un espoir qui est vraiment vain. Donc, je reçois de Dieu, c'est la foi, ça vient d'en haut, je regarde à Dieu, et ensuite, je vais dans la bonne direction. Je vous donne un exemple, je dirais négatif, quelque chose qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Rappelez-vous, dans le livre de Josué, Dieu communique à la nation d'Israël comment doit se faire la prise de Jéricho. Dieu parle, et il parle, je dirais, bizarrement pour les sens naturels, parce que comment on va se battre? Pas en utilisant les armes, mais en tournant autour de la ville pendant 7 jours et en jouant de la trompette et en glorifiant Dieu, en louant Dieu. Ça paraît quand même très bizarre. Mais ils obéissent par la foi, donc ils espèrent. Ils reçoivent la vérité, ça devient leur croyance, leur foi, et du coup ils s'attendent à ce que Jéricho tombe entre leurs mains. Est-ce que ça va arriver? Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a eu révélation, croyance, espérance. Notamment sur une semaine. Deuxième phase, la ville de Haï, qui est beaucoup plus petite, suite à cette grande victoire à Jéricho, ils ne consultent pas l'Éternel, donc Dieu n'a pas parlé. Mais Josué et les autres croient, espèrent vaincre la ville de Haï. Le problème, c'est qu'ils se sont appuyés sur leurs propres pensées. C'est une petite ville, on va la mettre minable en quelque temps. Que s'est-il passé? Il y a eu une grande déroute. Vous voyez, leur espérance ne s'appuyait pas sur une foi correcte. J'imagine qu'ils avaient dans leur pensée, et ça reste vrai, Dieu est fidèle. Bien sûr que Dieu est fidèle. Ils s'en sortaient parce qu'ils avaient traversé le désert pendant 40 ans, ils avaient traversé le Jourdain, et Jéricho était tombé. Bien sûr que Dieu est fidèle. Ok, Dieu est fidèle, donc on va battre la ville de Haï. Oui, mais là, c'était pas la parole de Dieu. Ce n'était plus la parole de Dieu. C'était utiliser ce que Dieu avait dit dans un certain contexte, dans un autre contexte qui les arrangeait. Vous voyez comment la subjectivité peut venir? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Si on consulte pas, notre espérance peut devenir du désespoir. Et c'est là, c'est pas ce qui est arrivé là au peuple, puisque Josué et d'autres se sont repentis de leur attitude et Dieu a renversé la situation et finalement ils ont obtenu la victoire. Mais pour certains, parce qu'ils ne se repentent pas de cette manière de faire ou parce qu'ils sont complètement séduits ou subjectifs, ils en veulent à Dieu ensuite en disant « mais Dieu n'a pas honoré ce qu'il a promis alors qu'il n'avait pas promis ». Donc vous voyez, c'est un point très important, ça demande beaucoup de circonspection, d'humilité, de douceur, d'accepter le plan de Dieu dans notre vie. D'accepter le plan de Dieu s'agissant des chrétiens en général, donc c'est ce que Dieu nous demande à tous, mais aussi de ce que Dieu nous demande à nous. Est-ce que Dieu me parle? S'il ne me parle pas, je reste tranquille et je n'essaye pas de mettre une étiquette ou de mettre des petits post-it sur mes espérances en disant Dieu est fidèle et puis je mets des petits versets pour justifier ce que je suis en train de penser ou ce que je suis en train de décider. En revanche, je dois vivre par la foi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'espérer, ça ne veut pas dire tout le temps réussir. Je m'explique. Je vous ai dit que le croyant regarde en haut. Par exemple, qu'est-ce qui nous est dit en haut? Dieu nous demande de pardonner nos ennemis. Par exemple. Alors, a fortiori, on va pardonner à nos amis, on va pardonner à nos proches. Mais en fait, quand il faut pardonner, tout le monde est notre ennemi en réalité. Donc, on doit pardonner à nos ennemis. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que la communion va être rétablie? Pas forcément. Mais on va espérer. Mais est-ce que ça va arriver? Pas forcément. Parce que ça dépend pas que de moi. Mais mon espérance demeure. C'est-à-dire que je continue à pardonner. Mais combien de fois? 70 fois, 7 fois. Je pardonne. Je suis patient. Je manifeste la grâce. je manifeste la miséricorde. C'est-à-dire que j'assimile la vérité. Ça, c'est un point important. Le croyant mûr, il va assimiler la vérité. Un croyant, par exemple, doit être défini comme quelqu'un qui pardonne. On va dire, j'utilise un mot qui n'existe pas en français, c'est un pardonneur. Donc, le chrétien pardonne. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça produit du bon fruit chez ceux qui sont pardonnés? Pas toujours. Mais il assimile cette vérité et il anticipe ensuite quelque chose, le croyant. Il espère que son attitude, d'abord, glorifie Dieu, et ça, c'est une certitude, du coup, on n'a pas besoin d'attendre, manifester le fruit de l'esprit au travers de la douceur, de la tempérance, de la miséricorde, de l'amour, ça ne déplaît pas à Dieu, donc ça, c'est une assurance, et on s'attend éventuellement même à des récompenses éternelles. On s'attend à avoir une bonne conscience devant Dieu. On s'attend à toutes ces choses-là. Et parce qu'on a assimilé la vérité et que nous l'appliquons par la foi. Nous l'appliquons parce que nous avons confiance dans cette vérité. Ça ne produit pas le fruit espéré, on persévère. Et ça produit quoi? La patience dans notre vie, qui est une autre facette du fruit de l'esprit. Vous voyez, on devient même têtu, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on regarde en haut à ce que Dieu dit, on le reçoit. Et devant nous, il y a cette vision d'une communion restaurée. Il y a cette vision que ça fait quelque chose dans le cœur de celui qui observe notre comportement. Rappelez-vous ce que j'ai dit dimanche dernier en parlant de l'épître de Pierre, que notre témoignage dans le monde va susciter quelque chose de la part de ceux qui nous regardent. Eh bien, nous avons déjà cette assurance-là. Donc même si ça ne produit pas une récompense personnelle, nous marchons par la foi, nous persévérons. S'agissant de notre vie à nous, par exemple, je commets un péché, une mauvaise pensée, une attitude, j'ai pas été cool avec un collègue de travail, je suis pas un bon mari, voilà, il y a des situations comme ça où je me culpabilise. Qu'est-ce que la foi doit produire? Je dois recevoir les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur cette circonstance? La parole de Dieu est claire, elle définit le péché. Qu'est-ce que je fais? Je m'humilie et je confesse le péché. Je reçois la vérité, je dois confesser mes péchés, je le fais. Je m'humilie devant Dieu. J'homologue, rappelez-vous homologeo en grec, j'homologue la vérité. Je suis d'accord avec cette vérité, je me repens. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu aussi? Qu'est-ce que ma foi a produit? Enfin, sur quoi repose ma foi? Sur d'autres vérités, c'est que Dieu me pardonne. C'est que le juste tombe sept fois et sept fois il se relève. Que le sang de Christ a effacé tous mes péchés. Que Dieu a des pensées de paix pour moi. Que Dieu, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Donc, j'assimile cette vérité. Et parce que je l'ai assimilée, j'ai la foi. Je crois que je suis pardonné. En quoi consiste mon espérance maintenant? Ce que je sais, c'est qu'en regardant en haut, j'ai reçu maintenant quelque chose de sûr, c'est que je suis pardonné. Et comme je suis pardonné, la ligne horizontale devant moi, c'est ce qui est devant moi, j'espère que Dieu va me bénir. J'espère que Dieu a un plan pour ma vie. J'espère que Dieu va restaurer certaines choses. J'espère que Dieu va m'utiliser. J'espère que Dieu va répondre à mes prières. Parce que je sais que je suis pardonné, parce que je suis en communion avec lui, que l'avenir qui est devant moi est un avenir qui n'est pas dépendant de mes fautes, mais qui est dépendant de ma communion que j'ai reçu par la foi, grâce à la vérité révélée. Donc, je reçois d'en haut le pardon, et j'espère pour l'avenir, j'espère que dans les jours prochains, je vais vivre de belles choses avec Dieu. Tout simplement parce que je suis restauré. Vous pouvez avoir la connaissance du pardon, mais si vous ne la mélangez pas avec la foi, si ce n'est pas le socle de votre façon de penser, votre cadre de référence, malheureusement, vous n'allez pas vivre d'espérance. C'est-à-dire que vous allez croire que si vous ratez le bus demain, c'est parce que Dieu vous fait payer votre péché. Que s'il répond pas à telle prière, c'est que là, il n'est pas encore content. Ben oui, c'est normal parce que regarde, j'ai pas eu un bon comportement. Je parle pas des péchés qui ont des conséquences sur long terme. Je sais pas, moi, si quelqu'un a trop bu, il se peut qu'il ait une cirrhose du foie. Mais je parle là de la relation avec Dieu. Si ma relation avec Dieu est restaurée par le pardon des péchés, parce que Dieu est fidèle et juste de me pardonner mes péchés parce qu'il a versé son sang pour moi, je reçois cette vérité. Et donc maintenant, dans l'état dans lequel je suis, même avec ma cirrhose, je crois que Dieu peut me bénir. Je crois que Dieu peut m'utiliser. Je crois que Dieu est avec moi, que je peux être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'attente pour l'avenir. Il y a une bonne direction qui est devant moi et qui va jusque dans la vie éternelle. Vous voyez là, les deux facettes de la foi et de l'espérance. Parce que sinon, si je capitonne la foi en disant, ben voilà, il faut que je croie dans la vérité, comme le ferait un intellectuel qui étudie la Bible, mais si on ne s'intègre pas dans ces promesses-là, c'est-à-dire que s'il y a une distance, on dit, oui, mais c'est plus pour moi. Oui, Dieu pardonne, mais pour moi, c'est trop tard. Il n'y a pas d'espérance. Je dois savoir les choses, il faut que ça soit révélé. Ça, c'est le problème de Dieu, entre guillemets, même si moi, je dois m'exposer à la parole de Dieu, mais Dieu a suscité un livre qui suffit à ma vie aujourd'hui. C'est lui qui a fait le boulot, et il me révèle ceci. Et il le fait aussi en amenant des pasteurs, des docteurs qui expliquent la Bible. Ça peut être un frère ou une sœur qui témoigne, ça peut être le Saint-Esprit qui nous parle. En tous les cas, Dieu se révèle. Je me saisis par la foi de ces vérités. Et ensuite, parce que je les ai assimilés, intériorisés, une espérance est suscitée. C'est pour ça que, en Romains 1, 17, il est dit « Le juste vivra par la foi ». Si je ne vis pas par la foi, je passe à côté de quelque chose. Je ne dois pas vivre par la vue, mais par la foi. Je ne dois pas vivre selon les conceptions que j'ai de Dieu, je dois vivre selon la conception que Dieu a inséré dans les Écritures, la révélation de Dieu et du Dieu vivant. Et du coup, l'espoir ne cesse jamais dans ces cas-là. Même si on doit attendre, on continue de marcher en avant. Par exemple, est-ce que nous devons prier ? Ben oui, Dieu nous dit dans sa parole qu'on doit prier. Est-ce qu'on doit se fatiguer de prier ? Non, on doit persévérer, prier sans cesse. Et parce que Dieu nous l'a demandé, nous assimilons cette vérité, même si la prière n'est pas encore répondue. On insiste, on persévère, on est patient dans la prière. Pourquoi ? Parce que devant nous, il y a une attente. Si je cesse de prier, alors il peut nous arriver d'oublier, mais en réalité, si on cesse de prier, c'est parce que nous avons perdu l'attente. Nous avons perdu l'espérance. Donc on arrête de prier. Et on n'a plus intériorisé la vérité. Et donc, l'espoir ne s'arrête jamais, on va toujours de l'avant, on regarde à ce qui est devant, parce que c'est un espoir biblique que nous avons. Et c'est pour ça que Paul dit, en 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, c'est-à-dire recevoir, ensuite l'espérance, il s'agit de continuer de croire, je vais de l'avant, je regarde devant moi, et l'amour, qui est la motivation pour vivre tout ça. 2 Corinthiens 5, 14 à 17, si c'est pas l'amour qui me presse, si je doute de l'amour de Dieu, j'ai du mal à croire en ses promesses. Si je doute de l'amour de Dieu, j'ai du mal à regarder l'avenir avec espérance. Mais parce que je sais que Dieu m'aime, il y a ces trois choses qui demeurent, la foi, on peut même mettre un synonyme, c'est la doctrine, la parole révélée. L'espérance, c'est que j'agis, j'obéis, je vais de l'avant et je suis environné par l'amour de Dieu. Mais la plus grande des trois est l'amour. Pourquoi Paul dit ça ? Parce que ça restera dans l'éternité. On sera dans la présence de Christ, Dieu est amour et on n'aura plus besoin de croire ou d'espérer parce que nous serons ressuscités, nous aurons un corps glorifié, nous serons sans péché, lorsque nous le verrons, nous serons comme lui, il y aura de la joie d'être dans sa présence, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus le diable. Vous imaginez un petit peu tout ce qui n'y aura plus et qui nous gêne jour après jour. Donc, il n'y aura plus que l'amour. Vous voyez, il n'y aura plus que l'amour. Et c'est pour ça qu'on espère aujourd'hui. Alors, ça nous amène, de façon plus pratique maintenant, à aborder... ça va, vous n'êtes pas fait trop fatigué ? On continue un peu ? Alors, passons au chapitre 9, toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Il est dit, Alors, dans le contexte, parce que je lis qu'un seul verset là, mais le contexte, c'est que Paul, alors qu'il était accusé par les Corinthiens, et notamment il était accusé de ne pas être un vrai apôtre, et même de profiter des Corinthiens. Et Paul est en train de dire qu'il avait même le droit, parce que lui était consacré à l'évangile, il semait l'évangile, il avait le droit aussi de récolter certains biens matériels grâce aux offrandes que les saints pouvaient faire aux prédicateurs. Donc ça, c'est le contexte. Il veut parler en cela que ça forme un tout, si vous voulez. Il y a ceux qui sèment et il y a ceux qui récoltent. Il y a ceux qui vivent de l'évangile. Et pour vivre de l'évangile, ben, il y en a qui travaillent et qui donnent pour l'évangile. Mais en fait, c'est un tout voulu par Dieu. C'est ce que Paul dit ici, et je le résume de façon schématique. Mais il dit quelque chose d'intéressant dans 1 Corinthiens 9, verset 10. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Donc c'est intéressant parce qu'il est en train de dire là que peu importe la partie du processus dans laquelle tu es engagé, par exemple là il y a quelqu'un qui laboure, peut-être qu'il va rien faire après. Il va peut-être pas arroser, il va peut-être pas récolter, il va peut-être pas fouler ou moudre le grain, mais il laboure quand même avec espérance, en d'autres termes, il espère manger de la récolte. Et puis vous avez celui qui va fouler le grain, ben il espère d'avoir part à cette récolte aussi. Si on transpose, ben ça parle de l'œuvre des saints en fait, et c'est un bon moyen là de penser l'Église, de penser la vie missionnaire, de penser les équipes missionnaires, de penser la famille aussi. C'est-à-dire que nous ne devons pas regarder uniquement à ce que nous faisons pour espérer, nous devons aussi regarder à la part que nous faisons dans un tout pour avoir l'espérance. C'est-à-dire que la petite partie que je fais ne suffit peut-être pas, moi, à me réjouir et à me faire, à sauter au plafond. Mais si je la vois dans un tout, dans un projet, je crois que je vais moi aussi profiter de ce tout. Et donc, ça produit de l'espérance. Par exemple, dans l'exemple de Paul, encore une fois, lui, il œuvre dans l'annonce de l'Évangile, d'autres donnent de leur bien. Ben, Paul, il n'a pas honte de recevoir le bien de certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'eux aussi vont en profiter. Ils vont profiter du résultat de leur ministère, mais du sien aussi. C'est-à-dire que c'est un tout, donc il n'en a pas honte. Et c'est ça qu'un chrétien doit comprendre, c'est que chacun a sa part, chacun a son don, chacun a du temps, chacun a la santé, ou peut-être qu'il est malade, quelqu'un est jeune, quelqu'un est vieux, quelqu'un est un homme, quelqu'un est une femme, quelqu'un vit dans un pays libre, quelqu'un vit dans un pays, dans une dictature, quelqu'un vit dans un pays riche, quelqu'un vit dans un pays pauvre, quelqu'un a tel don, quelqu'un en a un autre. Donc en fait, on a toujours tendance à regarder à la situation dans laquelle nous sommes, et à la position dans laquelle que nous avons, les dons que nous avons, et on réduit l'œuvre de Dieu à nous-mêmes en réalité. Et il y a de quoi désespérer parfois. Notamment si on regarde à nous-mêmes, on a nos faiblesses, on sait ce qu'on pense, même si les autres savent pas ce qu'on pense, on sait que c'est pas toujours clair là-dedans, et donc on a tendance à être désespéré. Mais Dieu nous dit, regarde le tout, et participez ensemble à une même espérance. C'est pour ça que si l'Église ne vit pas pour l'avancement du royaume de Dieu, les individus ne vivront pas dans une belle espérance. C'est parce que l'espérance, elle ne peut pas être uniquement personnelle et égoïste, même si on y trouve notre part, bien entendu. Mais il y a une notion d'équipe, il y a une notion de peuple. Rappelez-vous, je peux reprendre le principe de ce qui s'est passé suite à Jéricho, pendant et après la bataille de Haï. Il y avait aussi un autre problème, c'est que Achan, un homme, avait péché avec toute sa famille, alors que suite à la prise de Jéricho, Dieu a dit que tout devait être voué par interdit, c'est-à-dire que à l'époque, Dieu parfois maudissait un sol, maudissait un lieu, maudissait un peuple, et il fallait pas tirer profit de ce peuple. Donc Dieu dit, ne prenez rien de la ville de Jéricho. Vous devez tout brûler, même les bijoux, même les pierres précieuses, même l'or, tout. Et Achan, lui, a voulu garder pour lui-même quelques présents. Que s'est-il passé ? non seulement une malédiction est tombée sur lui, mais il y a une malédiction sur le peuple tout entier, parce que le mal était en Israël. Et donc il y avait cette notion corporelle, si vous voulez, et le peuple a subi la défaite de Haï aussi à cause du péché d'Acan. Et donc, lorsque nous marchons dans l'œuvre de Dieu, ne croyons pas que notre vie personnelle ne compte pas. Je reçois par la foi ce que Dieu dit de ma vie, mais aussi du royaume de Dieu. Et en tant qu'ouvrier dans la moisson, je crois, moi, participer à tous les bienfaits de cette œuvre dans laquelle je suis engagé, avec d'autres, en fait. Par exemple, est-ce que Dieu veut qu'on aille de par le monde annoncer l'évangile? Oui. Bon, ben, certains vont partir parce qu'ils croient dans ce commandement de Dieu. C'est la foi révélée, c'est une foi qui vient d'en haut. Et qu'est-ce qui se passe devant eux? Ils partent à l'étranger. Ils partent sur le champ missionnaire. Ils partent dans une autre ville. Ils partent dans une autre région. Ils partent dans un autre quartier. Ils commencent une étude biblique. Ils vont témoigner auprès des perdus. Il y a une vision parce qu'ils ont reçu de Dieu. D'autres ne le font pas parce qu'ils ne peuvent peut-être pas, ou c'est pas le temps. Mais ils vont participer dans la prière, ils vont participer par des mots d'encouragement, ils vont participer par le fait de conduire une voiture et emmener d'une personne d'un point A à un point B. Ils vont donner une partie de leur bien pour que l'œuvre se fasse et que des missionnaires soient soutenus. Tout ça participe à une œuvre de Dieu dans laquelle chacun a sa part. Il y a des places qui ont l'air plus enviables que d'autres, mais c'est pas la façon dont Dieu voit les choses. Si chacun est dans le plan de Dieu, ils participent tous à la même espérance. Et donc, si vous avez quelqu'un qui est dans, je sais pas, dans sa chambre, dans sa cave, en train de réparer sa voiture ou en train de faire la vaisselle et qui se lamente en disant « Ah, mais moi, je suis pas un missionnaire, moi, je suis rien, je suis pas un pasteur, je suis pas... » En fait, il participe pas à l'espérance que Dieu veut communiquer à son peuple tout entier. En fait, on doit s'intégrer dans cette espérance commune et qui nous permet d'assimiler la vérité et de la manifester par la foi jour après jour, et ça produit de l'espérance. Nous croyons que des âmes vont se convertir, nous croyons que nous allons bénir notre frère et notre sœur, nous croyons que ça bénit Dieu, nous croyons être dans le plan de Dieu, nous croyons être dans la bénédiction. Donc celui qui évangélise espère, en le faisant, parce qu'il croit qu'il a reçu cette vérité de Dieu, mais celui qui soutient l'œuvre d'un missionnaire participe à cette bénédiction aussi. Donc celui qui prie, celui qui enseigne, celui qui donne de l'argent, ils sont tous dans la même espérance. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Donc mes amis, on parlera de la deuxième partie de ce message mercredi prochain, mais juste restons sur cette vérité. Nous avons besoin de la foi, mais nous avons besoin aussi de l'espérance. Pour espérer, il faut que j'ai la foi. Pour avoir la foi, il faut que je la reçoive avec humilité. Je reçois la parole de Dieu et j'assimile la parole de Dieu. Je l'intègre dans ma vie. Et parce que je l'intègre, ce que j'ai reçu d'en haut devient clair pour moi devant. Et du coup, je vis jour après jour avec une espérance qui est devant moi jusque dans la vie éternelle. Il y a des tribulations, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Nous ne les nions pas. Mais ça n'enlève pas l'espérance. Pourquoi? Parce que l'espérance ne s'appuie pas sur ce qu'on voit. L'espérance ne s'appuie pas sur ce que nous expérimentons. L'espérance s'appuie sur la parole de Dieu qui nous permet de vivre certaines choses et d'espérer contre toute espérance. Et c'est ce dont on parlera la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.